Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Tourné en 1942, Ossessione de Luchino Visconti est l'adaptation du roman de James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois, déjà adapté en 1939 par Pierre Chenal et qui le sera à nouveau en 1946 par Tay Garnett. Ossessione marque le grand tournant de l'histoire du cinéma italien et la naissance de ce qu'on appellera le néo-réalisme. En 1958, en plus de ce film exploité en France sous un titre étrange, Les Amants diaboliques, Visconti a déjà réalisé La Terre tremble, Bellissima, Senso et Les Nuits blanches qui bientôt sera sur les écrans parisiens. Les films qu'il offrira encore par la suite, Rocco et ses frères, Le Guépard, Les Damnés, Mort à Venise, Ludwig, Violence et passion, achèveront définitivement de faire de Luchino Visconti comte de Lonate Pozzolo, artiste européen, aristocrate et communiste, l'un des très grands créateurs du cinéma.
L'émission que voici et celle de mardi prochain ont été enregistrées pendant le bref passage au Théâtre des Nations de Luchino Visconti, le créateur de ce qu'on a appelé depuis le néo-réalisme italien. Ce soir, Visconti nous parle de cinéma et j'attire l'attention de tous nos auditeurs sur l'importance et sur l'intérêt de ces quelques confidences. J'ai la très grande, la très exceptionnelle joie d'avoir ce soir à mon micro un des premiers metteurs en scène de théâtre et de cinéma des deux mondes. Un nom entre tous prestigieux, Visconti. Eh bien, puisque Visconti est là, puisqu'il vient de nous donner ses extraordinaires représentations d'une pièce d'ailleurs mineure de Goldoni, une pièce mineure dont il a fait véritablement un chef-d'œuvre par tous les moyens qui sont en son magique pouvoir, et je dis bien, il est magique. Eh bien, avant toute chose, puisque tant la mise en scène de théâtre contemporaine que la mise en scène, que le cinéma en réalité tout entier, a été marqué par lui de son sceau, je voudrais lui demander, Visconti, comment diable cela a-t-il commencé pour vous? Comment diable avez-vous su avant tout le monde qu'il y avait quelque chose qu'on nommerait néo-réalisme et que vous avez en réalité créé?
C'est très difficile de répondre à cette question car je pourrais vous en parler pendant très longtemps, pendant des heures, et nous pourrions ensemble rechercher les raisons profondes d'un renouvellement de la façon de s'exprimer par le moyen du cinéma. Je vais vous dire peut-être ce que c'est mon idée, mon impression. Je vais vous dire que moi j'ai commencé à faire du cinéma juste au début de la guerre, n'est-ce pas? La dernière guerre, en 1941.
1938, je crois, vous aviez un 41. Peu travaillé.
Ah bon? Mais j'avais fait une expérience pour moi capitale et d'une très grande importance. C'est quand j'avais commencé à m'intéresser de questions de cinéma, car de théâtre, je m'étais déjà intéressé plus tôt. J'ai eu la très grande fortune et la très grande chance de venir à Paris et de travailler à côté de Jean Renoir. Alors j'étais assez jeune, et d'apprendre de lui sa façon de voir la vie, de décrire la vie, d'approcher les hommes, de comprendre les problèmes des hommes, les problèmes humains, profonds et sociaux des hommes. Ça m'a ouvert les yeux, comme on dit, n'est-ce pas? Je vivais en Italie à cette époque et nous vivions malheureusement déjà depuis des années avec le fascisme en Italie. Et vous savez ce que ça voulait dire, fascisme en Italie. Alors, plus rien n'existait de vrai, plus rien n'existait de authentique, mais tout était arrangé et forgé à la façon des désirs de notre gouvernement, de la dictature
qui nous écrasait.
Et je n'avais pas eu occasion de pouvoir regarder profondément la vie italienne et la réalité de la vie italienne. Mais après mon expérience parisienne, qui n'a pas duré longtemps du reste, mais qui a été pour moi comme une entière vie d'expérience, d'être près de cet homme extraordinaire qui était Jean Renoir, qui était pour moi à ce moment, je suis rentré en Italie et tout à coup je me suis aperçu que j'avais comme requis la vue. Je voyais profondément dans les choses italiennes. Et je voyais profondément dans la vie italienne et je voyais profondément l'âme des Italiens qui étaient suffoqués, écrasés par la dictature. Et voilà, moi, commence à naître le désir d'exprimer cette réalité et cette vérité. Et c'est encore sous le fascisme que je réussis à réaliser mon premier film, qui est Obsession,
n'est-ce pas ?
Et qui était un film qui a été naturellement combattu, coupé, contrasté en mille façons par le gouvernement fasciste, naturellement, car pour la première fois, le cinéma italien sortait de la formule qu'on dit maintenant des téléphones blancs. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'était cette formule qui avait tout arrangé la vie italienne sur une espèce de fausse comédie légère,
oui,
et rosée, n'est-ce pas ?
Oui.
La vie italienne n'était pas du tout une vie en rose. C'était des téléphones noirs, justement. Et c'était une vie noire, triste et oppressée. Alors, pour la première fois, j'ai approché une certaine réalité de la vie italienne. La vie des gens pauvres, la vie
c'était
des gens
début de la
modestes.
Guerre.
C'était tout à fait au début de la guerre. Et pour la première fois, j'ai montré une Italie comme je la voyais moi-même, une Italie vraiment pauvre, dépouillée et réelle. Voilà, ça c'était ma première expérience. Et après ça, je me rappelle, même si ça vous intéresse, de vous dire comment est né le terme de néoréalisme.
Oui, oui.
Je travaillais, comme
c'est
je
un
le
point
disais,
d'histoire.
Pour la première fois, et je travaillais à Ferrare, n'est-ce pas, qui est une ville de la vallée du Pô en Italie. J'avais choisi Ferrare parce que Ferrare est une ville qui me fascinait depuis longtemps et dans laquelle je croyais de pouvoir trouver cette vérité que je cherchais. Et mon monteur, qui est un homme extrêmement cultivé et intelligent, qui s'appelle Mario Serandrei, était à Rome, naturellement. Je lui ai envoyé mon matériel. Quand j'avais tourné, j'ai envoyé mon matériel à Rome.
Le film, la pellicule.
Du film, la pellicule, oui. Et après quelques jours, enfin, après quelques envois de cette pellicule, sur laquelle s'imprimait cette vérité tout à fait extraordinaire pour nous, Italiens, je reçus une lettre de mon monteur, justement, de M. Serandrei, qui, pour la première fois, usait ce terme et disait « Ce que tu es en train de faire, je pourrais l'appeler un néoréalisme. » Et depuis ce moment, on a usé ce terme.
Je peux même dire que, comme cela arrive souvent dans l'existence des choses de l'art, le terme, une fois créé, a cristallisé la possibilité d'un art.
C'est ça. Parce qu'après ça, comme vous savez, la guerre a commencé à devenir plus dure pour
la
tout
terre
le monde.
Trembla, comme vous avez
la
dit.
La terre trembla, mais la terre trembla plus tard,
plus
après
tard,
la guerre.
Votre film est après la guerre,
C'est déjà après la guerre. Mais après, naturellement, sont venus les films de Rossellini, ont commencé les films de De Sica. Et je suis sûr que soit Rossellini que De Sica ont été très influencés par premier film. Et ça, c'est une chose que je peux dire parce que c'est
les déclarations
de De Sica et de
entendu.
Rossellini. Alors, les films de Rossellini avaient ce côté, disons, reportage, ce côté un peu d'improvisation, qui était son style, merveilleux style, qui a donné des fruits très beaux à ce moment-là. Et De Sica a commencé, lui aussi, à s'approcher d'une certaine réalité, car à ce moment, De Sica venait encore d'un autre genre de cinéma, n'est-ce pas ? Qui était un peu la comédie et tout ça. Mais il a compris qu'il avait une autre réalité à voir et à raconter de la vie italienne. Et c'est depuis ce moment-là que les films comme Chucha, n'est-ce pas, ont commencé
à tout le cinéma italien.
Et tout le cinéma italien s'est un peu uniformé à ce genre, à ce style.
Et je voudrais vous en entendre parler extrêmement longtemps, monsieur Visconti. Mais, je vais être obligée de vous demander de glisser maintenant sur ce que vous faites maintenant. Car je crois savoir, nous n'avons pas encore vu le film que vous avez tourné à Rome d'après Les Nuits Blanches de Dostoïevski, nous l'attendons. Mais je connais suffisamment Dostoïevski et un peu vous-même pour savoir que ici vous abordez une nouvelle, comment dirais-je, non pas une nouvelle forme, non pas une nouvelle vision du monde, mais si vous voulez, au lieu que ce soit un réalisme comme celui que vous nous avez montré dans Goldoni, cependant soutenu par une fantaisie, cependant animée par une espèce de chose qui n'est pas seulement la réalité humaine, mais aussi cette univers second de la fantaisie de l'artiste qui est vous et qui rend cette réalité possible pour le public, que ce soit au cinéma ou au théâtre, parce qu'elle en fait une œuvre d'art, n'est-ce pas? Or, si vous abordez Dostoïevski au cinéma, il est probable que vous l'abordez dans sa réelle dimension, ce qu'on ne peut pas toujours au théâtre, c'est-à-dire avec le fantastique et le réel étroitement unis.
Oui, c'est ça. Et pour vous dire comment je suis arrivé à désirer cette espèce de, disons, de ouverture d'une fenêtre sur quelque chose de différent. Je vous dirais que depuis justement Obsession, qui est de 1942, n'est-ce pas, 41-42, jusqu'à l'année dernière, 15-16 ans sont passés à peu près, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Et dans ces 15-16 ans, on a fait une très grande production de films néo-réalistes. Moi-même, naturellement, après ça, j'ai tourné La Terre tremble, qui est un film qui est resté d'une certaine importance parce que j'ai pour la première fois abordé dans sa totalité la vérité d'un petit coin d'Italie sans rien ajouter de ma fantaisie, sans rien ajouter d'arranger, de préparer. C'est un film que j'ai tourné, comme vous savez, sans scénario, à l'aide d'un groupe de pêcheurs et de filles d'un petit village de Sicile qui parlent leur langue sans des dialogues écrits, mais des dialogues plutôt improvisés par eux-mêmes. Donc ça, c'était pour moi l'expérience, le maximum d'expérience néo-réaliste, je veux dire. Et je pensais, je sentais que je n'aurais pas pu aller plus loin dans ce sens. Après ça, j'ai tourné encore Bellissima avec
Magnani. Et puis vous avez bifurqué sur Senso.
Et puis, ça c'est déjà très important, parce qu'après Bellissima, pour moi, c'était un peu fermé, cette période était un peu fermée, un peu finie. Alors Senso est déjà une espèce de, comment pourrais-je dire, de libération vers quelque chose de différent.
Très différent. Et puis, la joie de la couleur.
Ça, c'était la première fois que j'approchais de la couleur. Alors, pour moi, c'était encore un autre problème à résoudre, n'est-ce pas? Mais ça, je pourrais vous en parler peut-être plus tard, en mettant en bloc avec le théâtre, avec mes expériences de théâtre. Mais je veux dire, Sense, c'était déjà quelque chose qui se détachait, n'est-ce pas, du réalisme que j'avais suivi jusqu'à ce moment. Et je m'inspirais pour Sense à une tradition de mélodrame italien,
du lyrisme, d'opéra aussi.
C'est une chose que j'ai beaucoup expliqué déjà dans beaucoup d'interviews. Alors c'est une chose qui est déjà assez connue maintenant. Et voilà tout à coup le moment qui... On arrive vraiment au jour où je décide de choisir un conte si beau et si important de Dostoïevski pour tâcher de le transformer en film.
Les Nuits Blanches. C'est une de ses toutes premières œuvres.
C'est... le désir aussi, à ce moment-là, justement, de tâcher de soulever ma matière, dans quelque sorte, si je peux dire comme ça, dans un domaine un peu plus magique, presque.
Exactement.
Vous comprenez ?
Exactement.
Et c'est ça que j'ai tâché de faire, de raconter une petite histoire, une petite qui est une très grande histoire chez Dostoïevski, mais chez moi est une toute très petite histoire.
Je sais comment
pas me
vous faites vos petites histoires.
Mais je n'ose
elles
pas
sont
me comparer
immenses
à ce géant qui est Dostoïevski, naturellement. Mais j'ai tâché de m'approcher à lui avec un respect, avec un amour, avec une admiration presque
mystique. Ce qui est beaucoup plus rare, une connaissance.
Presque mystique, oui. Et alors j'ai tâché vraiment de mettre dans cette histoire ce côté mirable et presque impossible à rejoindre, n'est-ce pas, qu'il y a dans les pages de Dostoïevski. Et il y a quelqu'un qui dit que j'ai réussi en partie à créer cette espèce de mystère autour d'une petite histoire d'amour. Il y a d'autres qui disent que je n'ai pas réussi. Mais en tout cas, je me considère déjà assez satisfait d'avoir essayé.
Ce qui
essayé.
Est important pour nous, c'est de savoir si cette création vous apparaît désormais suffisamment certaine pour continuer dans ce sens.
Je crois.
C'est ça qui est important.
Je suis toujours à la recherche d'histoires vraies, d'histoires qui sont très basées sur la terre, vous comprenez ? Mais où les sentiments, où les passions, où les situations nous permettent de nous soulever un peu, d'arracher à un mètre soulevé sur la terre. Mmh. Voilà, c'est ça que je pourrais
Mais vous
appeler
savez que
du lyrisme.
Ceci représente
de la
très exactement
poésie.
La lassitude du monde moderne devant sa propre pesanteur.
Oui. Le besoin que j'ai senti est peut-être celui-là. Et j'ai tâché de l'exprimer avec ce premier essai qui est Les Nuits Blanches, et je vais encore tâcher de continuer.
Nous allons bientôt le voir à Paris.
Vous allez bientôt le voir à Paris, mais hélas.
Quoi donc ?
Je ne sais pas par quelle raison, je ne sais pas par quelle combine de distributeurs, de producteurs, de je ne sais pas quoi.
Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Mon film ne passera pas dans sa version originale.
Pas du tout ?
Pas du tout, il paraît.
Pas du tout, mais c'est pas possible.
Et je sais que le film a été doublé, naturellement doublé sans que je puisse avoir le temps de contrôler moi-même le doublage. Et à ce que qu'on me dit, le film est très mal doublé.
Mais
très
c'est épouvantable, parce qu'enfin, la voix de l'acteur,
la voix de Maria Schell était extrêmement importante. Et pas seulement ça, mais nous avons fait, Maria et moi, un effort considérable, car Maria a joué directement en italien.
Parce que le rôle dans la pièce est d'une étrangère.
D'une étrangère. Alors j'ai pu faire ça, et elle joue très bien en italien, avec un tout petit accent, léger accent, qui ne dérange pas du tout, mais qui même ajoute au charme de sa voix et de son jeu. Alors,
on aurait pu le faire doubler par elle-même, puisqu'elle a...
Elle n'a pas pu ça, elle n'a pas eu le temps pour des questions de travail, je ne sais pas, de contrat, mais...
Mais le garçon dont le rôle était essentiel...
Et Marcello Mastroianni, qui joue en italien et qui joue vraiment très bien, n'est pas doublé par lui, est doublé par je ne sais pas qui, je ne sais rien.
Vous n'avez pas choisi la doublure.
Et j'attends...
Ce sont des mœurs extravagantes.
Ce sont des choses extravagantes et très, très embêtantes. Et je suis sûr, j'attends que le film sorte à Paris, et puis après, je ferai quelque chose, je ne sais pas, je vais m'opposer, je vais protester, je vais écrire des lettres aux journaux, je vais dire au public que ce n'est pas ma faute.
Oh, c'est absolument nécessaire.
S'il y aura un produit qui est très mauvais, probablement, et qui n'est pas mon produit.
C'est inouï, quand même, que ces choses puissent exister.
C'est très grave, surtout dans une ville comme Paris, où je tiens énormément que les choses que je fais apparaissent au moins... comme je les ai faites, n'est-ce pas, et que je prends toutes mes responsabilités.
C'est pour moi qui ne connais rien au cinéma. Je vous écoute absolument éberlué, parce que, étant donné qui vous êtes et l'importance de votre œuvre, ça semble impensable. C'est déjà impensable pour un petit metteur en scène de second ordre.
Nos droits de metteur en scène sont tellement souvent bafoués et écrasés sous des questions de...
Vous n'en sachiez même rien.
Non, je n'en sais
rien. Nous sommes quand même assez tous avides de votre véritable œuvre et non pas de ses contrefaçons pour que...
J'espère que vous serez solidaires avec moi pour protester.
Non seulement ça, mais j'espère qu'on aboutira très vite à voir la version originale, au moins dans une salle.
Je l'espère aussi. Tout au plus que c'est tout à fait normal à Paris, on fait toujours comme ça. Scène se sortit en version originale et puis après on l'a doublée, on l'a fait sortir dans d'autres salles. Je peux arriver à comprendre ça. Je ne peux pas arriver à comprendre qu'on présente mon film dans une version qui n'est pas ma version.
C'est incroyable.
Avec une Maria Schell qui parle, une langue française parfaite. Alors,
qui n'est donc plus du tout une étrangère.
Le garçon lui dit tout le temps, est-ce que vous êtes étrangère ? Ça fait éclater de rire des salles entières, vous comprenez ?
C'est vraiment regrettable.
C'est vraiment ridicule.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 avril 1958. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.